Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Pourquoi est-il important de prévenir la malaria chez une femme enceinte? On en parle avec le docteur Jean Angualou, directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Vous savez, la malaria est l'une des causes majeures de mortalité chez les enfants et les femmes enceintes. Et pourtant, d'après les experts, il y a moyen de prévenir cette maladie chez une femme enceinte en suivant les traitements préventifs intermittents. On le disait, vous êtes intéressé par les sujets. Appelez déjà au 081 890 63 94 ou faites-nous un SMS au 081 711 50 01. Mais il y a également notre page Facebook où vous pouvez réagir. Dites-nous alors, docteur, à quoi consiste ce traitement intermittent de la malaria chez la femme enceinte et pourquoi c'est important?
Merci, monsieur le journaliste, de nous donner l'occasion encore une fois de nous exprimer dans vos antennes. Et surtout à la veille de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.
C'est le 25 avril?
Le 25 avril.
Voilà.
Ok, pour répondre à votre question, nous devons d'abord nous dire que la femme enceinte est d'abord une personne humaine. Et dans notre pays, toute personne est exposée à la malaria. Donc, comme toute personne, la femme enceinte devra d'abord, commencer par mettre en pratique toutes les mesures préventives pour lutter contre le paludisme. Et en plus, tenir compte de son état.
Paludisme pour dire malaria, c'est ça?
Exactement. Voilà. Oui, on va parler de malaria pour que les communs des mortels puissent nous suivre. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. En plus, la femme enceinte, de par son état, elle est encore plus conseillée de faire la prévention du paludisme. En quoi consiste cette prévention? Commençons par la personne en général, vous et moi, avant la femme enceinte. Les premières mesures, nous le savons tous, mais souvent nous les négligeons, c'est l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée. Ça veut dire quoi? L'utilisation, comment on utilise correctement la moustiquaire imprégnée? C'est d'abord, un, avoir une moustiquaire imprégnée de qualité, bien imprégnée. Une moustiquaire imprégnée sans trou. Une moustiquaire imprégnée sous laquelle on passe la nuit chaque nuit. Ce n'est pas choisir qui fait froid aujourd'hui, qui fait chaud aujourd'hui et vous devez changer de comportement en face. Non, on vous demande de passer la nuit, chaque nuit, sous la moustiquaire imprégnée. Et c'est ça la bonne utilisation. Il y a aussi la pulvérisation intradomiciliaire. Et ça, ce n'est pas une mesure individuelle. C'est une mesure collective qui doit être aussi programmée par la collectivité, par le gouvernement. Quant à la femme enceinte, le sujet qui nous concerne aujourd'hui,
tout à fait,
c'est très important parce que, comme nous avons dit, de par son état, la femme enceinte a une certaine réduction de sa protection immunitaire.
Avec l'enfant qu'elle porte dans son ventre.
Exactement. Oui. Donc, la grossesse rend la femme un peu vulnérable à plusieurs choses, dont la malaria. Donc, une femme enceinte est susceptible de faire plusieurs fois la malaria et voir la malaria grave. C'est pourquoi, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que lorsque on est dans un état de maladie, on n'est pas sûr d'avoir les soins rapidement et des soins de qualité. Parce que si on n'a pas l'occasion d'avoir les soins de qualité à temps, on donne la possibilité à la maladie qui était simple au départ de s'aggraver. Et la conséquence qui peut venir après l'aggravation, certainement, ça peut être la mort. C'est ainsi que, comme nous ne voulons plus que les gens décèdent de la malaria, ça c'est un des mandats du PNLP, nous devons tout faire pour que la femme enceinte ne puisse pas d'abord, un, souffrir de la malaria simple, et quand elle tombe malade, tout faire pour que sa malaria ne se complique. Alors, qu'est-ce qu'on demande à la femme enceinte? C'est d'abord d'aller consulter lorsqu'elle est enceinte, c'est-à-dire participer aux consultations prénatales.
C'est très très important.
Parce que la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte se fait à l'occasion des consultations prénatales. Comment une femme enceinte peut bénéficier de ce que nous appelons les traitements préventifs intermittents, en sigle TPI, si elle ne participe pas à la consultation prénatale?
Donc, ce traitement est intégré dans les consultations prénatales.
Exact. Il s'agit de quoi? C'est pendant que la femme vient à la consultation prénatale, elle reçoit tous les autres services qui sont intégrés dans ce que nous appelons la CPN centrée, y compris le traitement contre le paludisme, chez laquelle on remet quelques comprimés de sulfadoxine, pyrimétamine, qu'il doit prendre pendant la consultation prénatale.
C'est ça le Fancida?
Oui. Bon, on ne fait pas la publicité.
Tout à fait,
donc nous utilisons le nom sulfadoxine, évidemment, c'est ça.
Et que j'en appelle couramment.
Et que couramment, mais ouais. C'est la sulfadoxine, pyrimétamine.
Qui peut être aussi un autre produit, mais
nous abrégeons par SP.
Ah, d'accord.
SP, sulfadoxine, pyrimétamine. Donc, à chaque occasion que la femme vient à la consultation prénatale, elle doit bénéficier d'une dose de sulfadoxine.
Et là, c'est à quel rythme? Par exemple, pour nos consultations prénatales, il faut aller à...
Nous y arrivons.
Oui.
Le programme national de la santé de la reproduction préconise pour chaque femme enceinte 4 occasions. 4 consultations prénatales entre le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et comme nous travaillons ensemble dans la protection de la femme enceinte, nous aussi, nous profitons de l'occasion de la femme enceinte pour lui donner les traitements préventifs de la malaria à chaque fois qu'elle se présente à la consultation prénatale. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, nous avons dit aussi, la moustiquaire imprégnée chez la femme enceinte, parce qu'au début, on a parlé des populations en général.
Oui.
En plus de TPI, la femme enceinte doit aussi utiliser la moustiquaire imprégnée de la moustiquite de façon correcte. La troisième mesure, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Ça veut dire quoi? Bien qu'on utilise la moustiquaire, il peut arriver que vous tombiez malade. Mais s'il arrivait que la femme enceinte tombe malade, c'est se présenter rapidement au centre de santé pour que sa malaria puisse être soignée à temps et pour éviter la complication. Donc, toute mesure à partir d'une maladie qui évite à ce que la maladie se complique est aussi une forme de prévention, mais c'est la prévention secondaire.
Docteur Jean Gouanou, on vous retrouve tout à l'heure parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Ogui Bendelo qui est à Kikui dans le Bandundu, Jean-Claude Alikeri qui est à Bougnard dans la province orientale. Ogui Bendelo, bonjour.
Bonjour Marcel, je salue aussi toute l'équipe de Radio Capi, y compris tous les auditeurs qui nous suivent.
Voilà, on vous écoute, Ogui, allez-y.
Oui, Marcel, j'ai voulu demander à notre invité qui est le docteur s'il puisse me préciser quel danger peut-il arriver à une femme enceinte qui ne s'est jamais rendue à la consultation. Et d'aider, il y a des repères où nous sommes parcourus, on a constaté qu'il n'y a jamais eu une campagne de sensibilisation au sujet des femmes enceintes. Alors, comment cela pourra arriver à ces repères-là, surtout dans des côtés des quartiers occidentaux, chez les Tchokwe, donc il n'y a pas une campagne de sensibilisation à ce sujet. Comment est-ce que ces femmes-là doivent être prévenues?
Merci Ogui Bendelo. Jean-Claude Alikeri, vous êtes à Bougnard dans la province orientale. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Vous avez la parole Jean-Claude.
Oui, quand bien même j'ai suivi l'indiqué du jour, le paludisme c'est une maladie endémique qui augmente l'incidence. Et lors de votre démarche en tant que chercheur, vous trouvez une diminution de prévalence. Alors ma question est de savoir, quelle sera la procédure de votre recherche pour arriver à une déclaration exacte? Et je pense que pour arriver à une déclaration, il faut la présence des malades pour chercher les causes de cette maladie qu'on appelle paludisme. Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. La moustiquaire est utilisée régulièrement pour les populations, mais Mais quand un fréquent cite au veillé de 18h à 21h, soit à 22h, en tant que spécialiste dans ce domaine, quel conseil pouvez-vous donner à ces populations qui font les veillées de 18h jusqu'à 21h? Parce qu'à ce moment-là, vous allez trouver que les moustiques, n'est-ce pas? Les moustiques, elles disent à ce moment-là. Or, elles utilisent souvent les moustiquaires. Alors, on trouve que pendant ce temps-là, il y a toujours l'abonnement des maladies qu'on appelle malaria. Oui. Alors, je ne sais pas quel conseil pourriez-vous apporter aux populations-là.
Merci Jean-Claude. Merci. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Pourquoi est-il important de prévenir la malaria chez une femme enceinte? Nous en parlons avec le docteur Jean Alingua. Il est directeur du programme national de Jean Angualou, excusez-moi. Il est directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Les dames, vous êtes intéressées par le sujet, en tout cas appelées. Le sujet vous concerne. Vous êtes femme enceinte. Vous avez un problème de malaria. C'est l'occasion d'en profiter pour poser des questions à notre invité. Il est là pour vous, pour répondre à vos préoccupations. Appelez au 081-809-63-94 ou faites-nous un SMS au 081-711-50-01.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Docteur Jean Angualou, comment répondez-vous aux premières questions qui ont été les préoccupations de nos premiers auditeurs? Il y a Ogi Bendolo qui a parlé de est-ce que d'abord les femmes sont sensibilisées par rapport à cette question du traitement intermittent et contre la malaria, et puis quels sont les dangers pour une femme qui n'a pas réussi ce traitement?
Bien, merci beaucoup. Je remercie les deux auditeurs de nous avoir posé ces questions. Ça montre l'intérêt qu'ils portent à l'émission et surtout à la malaria chez la femme enceinte.
Oui.
Avant de répondre, je voudrais résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi au début et ceux qui vont nous suivre maintenant, les trois grandes mesures de prévention du paludisme chez la femme enceinte. Nous avons dit 1. L'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée. 2. Suivre les CPN pendant lesquels la femme doit bénéficier de traitements préventifs intermittents. 3. C'est lorsque la femme enceinte est malade de malaria qu'elle se présente rapidement dans un centre de formation sanitaire pour être soignée correctement et rapidement.
Et pour la dose, c'est pendant 4 séances hein, pour la dose de
oui, à chaque occasion que la femme vient à la consultation prénatale. Oui. Et si nous aurons l'occasion aussi, nous allons dire à partir de quand la première consultation devait normalement commencer.
Et docteur, là rapidement, est-ce que c'est gratuit ce traitement ou bien il y a de frais à payer?
Oui, c'est gratuit. Je crois que le problème qui se passe là, on aborde une autre question. Les problèmes qui se passent là, les médicaments, les moustiquaires, les médicaments, les produits de laboratoire que nous amenons dans les centres de santé, dans les hôpitaux, c'est gratuit.
Voilà.
Ce qu'on paye, c'est les autres frais, les autres coûts de l'hôpital, mais les médicaments et en général les intrants sont gratuits.
Voilà. Allez-y.
Bien, la première question, quel est le danger chez la femme enceinte si elle ne suit pas la consultation prénatale? Je crois que c'est une très bonne question. Et je pense que c'est une des réponses que tout le monde se pose, et je pense que la réponse est celle-ci. La femme enceinte, lorsqu'elle ne suit pas les consultations prénatales, c'est-à-dire qu'elle est exposée à faire le paludisme n'importe quand. La conséquence, c'est quoi? Lorsqu'elle fait la maladie, première conséquence, comme tout le monde, si elle ne se fait pas soigner correctement à temps, la maladie peut s'aggraver. Et si la maladie s'aggrave, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est sur elle-même, parce qu'elle peut en mourir. La deuxième conséquence, elle peut faire l'anémie. Maintenant, sur le produit...
L'anémie, c'est-à-dire diminution de sang.
Diminution de sang. Oui. Donc, la malaria attaque les globules rouges, et si elle n'est pas soignée rapidement, beaucoup de globules rouges peuvent être détruites et entraîner la diminution de sang qu'on appelle anémie. Ça, c'est sur elle-même, la femme enceinte. Maintenant, sur le produit de conception, c'est-à-dire l'enfant qui est à son sein, face à cela, la malaria de la maman peut passer chez l'enfant. Et à ce moment-là, les conséquences sont nombreuses. D'abord, la femme peut avorter. Si la grossesse est avancée, la femme peut faire un accouchement prématuré. Si elle a beaucoup de chance, si elle n'a pas beaucoup de chance, l'enfant peut mourir au sein de la mère et la mère fera un accouchement de mort-née. Et à la fin, s'il y a beaucoup de chance dans tout cela, et que malgré ce cas, l'enfant arrive quand même à sortir vivant, il peut sortir avec un petit poids de naissance. Et nous savons tous, le petit poids de naissance était facteur de morbidité, c'est-à-dire des maladies, à partir de la naissance. Donc un enfant qui naît avec petit poids est aussi exposé à des maladies lorsqu'elle sera à l'extérieur de sa mère.
Ah, docteur, par rapport à toutes ces informations, là maintenant on renchérit par rapport à...
Exactement.
Est-ce que les femmes sont sensibilisées?
D'où l'importance de la sensibilisation. Et ça c'est très important, je félicite l'auditeur qui a posé ce problème-là, parce que, comme on dit, ne pas savoir, c'est être à demi-mort. Donc la sensibilisation donne la possibilité aux femmes et aux maris, ça il ne faut pas oublier, aux hommes, parce que les hommes doivent aider les femmes enceintes pour aller à la consultation prénatale. Donc la sensibilisation est très importante pour que toute la population exposée à la malaria sache à quoi s'en tenir. Et ça, c'est un point important, c'est même parmi les stratégies de soutien aux stratégies majeures que nous utilisons pour lutter contre le paludisme, la communication.
Docteur, on revient à vous le temps pour nous de prendre Tony Luzolo qui nous appelle de Kikwit dans le Bandundu. Tony, bonjour.
Je voulais poser ma question à l'invité. Bon, ma question se fait de la manière suivante. Bon, qu'en est-il de nos mamans qui nous ont mis au monde en étant au village? À ce moment-là, je ne sais pas, il n'y avait pas de centre de santé qui se préoccupait de la malaria. Mais alors que nous nous sommes nés, on est en bonne santé et on vit, bien sûr qu'on est attrapé par la malaria après. Bon, comment est-ce que l'invité peut m'expliquer ces cas? Lorsque nous sommes nés, il n'y avait pas la malaria, il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas une mesure préventif. Lorsqu'il vient de parler aussi de trois mesures, il y a le moustiquaire, la moustiquaire, il faut aller au centre pour se faire consulter. Alors qu'au village, à ce moment-là, lorsque nos mamans mettaient au monde, il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas aussi de consultation prénatale. Comment est-ce que l'invité peut m'expliquer par là? Voilà ma préoccupation.
Merci Tony. Docteur Jean Gualou.
Oui, merci beaucoup, maman. C'est une dame?
Non, c'est un monsieur.
C'est un monsieur. Oui. Bien, on va vous répondre, effectivement. Il y a des gens qui ont posé des questions avant vous, mais ce n'est rien. Je commence par vous après je reviens aux autres. Oui, vous parlez aux mamans. Je ne sais pas c'est à quelle époque dont vous parlez. Je pense, je ne connais pas votre âge, mais sachez très bien que pendant la période coloniale, la santé était très bien organisée, messieurs. Donc, il y avait, pas des centres de santé, mais il y avait des hôpitaux, il y avait des dispensaires, et il y avait même les mesures préventives très bien organisées. Et si vous vous souvenez, si vous avez votre mère à côté, votre père à côté, votre grand-mère, posez la question par rapport à la police d'hygiène. Dans les temps, effectivement, l'assainissement de milieu était tellement bien organisé que cela nous permettait déjà d'éviter certaines choses. Ça, c'est un.
Et actuellement, la brigade d'hygiène n'existe que de nom.
Ça n'existe que de nom, malheureusement, mais nous sommes en train de faire un effort pour les intégrer dans les zones de santé.
Voilà.
Oui. Donc, sachez qu'il y avait peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais beaucoup de choses se faisaient de façon ordinaire, de telle manière que c'était tellement ordinaire que les gens ne se rendaient pas compte parce que c'était ancré justement dans les comportements des gens. La malaria a tué depuis longtemps. Beaucoup de nos mamans sont mortes de malaria, ça que nous puissions le savoir. Mais n'oubliez pas aussi que la médecine traditionnelle existe et que le créateur a mis à côté de ses créés des plantes qui guérissent les maladies. Et il a donné à certaines personnes les capacités de découvrir ses feuilles, ses racines, ses écorces pour soigner la malaria. N'oubliez pas que la quinine, qui est un médicament utilisé largement contre le paludisme, vient d'une plante. Donc, il n'y a pas que la plante quinquina, mais dans nos grandes forêts, il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de plantes qui sonnent la malaria et que les gens connaissent. Peut-être que vous ne saviez pas que c'était la malaria, mais au fait, la malaria existait. La malaria existait. Voilà un peu la réponse. Donc, ne dites pas que ça n'existait pas. Ça existait, peut-être que nous ne le savions pas comme tel.
Alors, pour en revenir à la question
de Jean-Claude. À la question de la prévention, je n'ai pas très bien compris la question sur la prévention, la diminution de prévention et la suite.
Je n'ai pas très bien compris. De toute façon, je ne sais pas si les chercheurs me voulaient dire est-ce qu'il y a moyen dans un espace donné, dans une communauté donnée, d'avoir une idée sur la prévalence de la malaria et comment prévenir.
Absolument, oui. Absolument. C'est d'ailleurs un des objectifs que nous suivons. Avec toutes ces mesures de lutte contre le paludisme, c'est de réduire la prévalence du paludisme. La prévalence du paludisme, c'est le nombre de personnes atteintes de malaria pendant un certain moment de l'année. Donc, connaître dans la communauté, aller dans la communauté, faire le prélèvement et savoir le taux de prévalence de malaria dans une communauté. Ça se fait très facilement. Et quant à la moustiquaire, quant à l'utilisation des moustiquaires, surtout chez les populations qui font la veille entre 18h et 22h, c'est vrai, c'est aussi un des thèmes de notre communication. Pour se prévenir contre le paludisme, il ne suffit pas seulement de pratiquer ce que nous sommes en train de dire ici, mais aussi de connaître le comportement des moustiques. Je suis content qu'il puisse parler de cela. Le moustique qui transmet le paludisme, son activité est maximale entre 20h et, disons, 4h, 5h du matin. C'est à ces moments-là que l'anophèle pique l'homme.
L'anophèle, c'est cette espèce de moustique qui transmet
la maladie. Et ça, c'est normalement la période où l'homme devrait se retrouver en sommeil. Et c'est pendant le sommeil qu'on utilise la moustiquaire. Alors, lorsqu'on est éveillé pendant ce temps-là, il faut prendre certaines mesures pour éviter que le moustique ne puisse vous piquer. Et à ce moment-là, lorsqu'on est en veille, on bouge beaucoup.
Oui.
Et le moustique n'aura pas le temps de venir se poser et terminer son repas. Il faut savoir que pour que le moustique transmette la malaria, il doit commencer et terminer son repas. Et si ce repas-là n'est pas pendant ce temps, il bouge, il pique, il répond, il n'a pas terminé son repas, il ne transmet pas la malaria. C'est très important. Et je vois, par exemple, au village, l'utilisation du feu, tout autour du feu, c'est aussi un moyen d'éloigner un peu les moustiques. Il y a aussi qui utilisent les répulsifs. Il y a des pommades, il y a certains produits qu'on utilise sur la peau pour essayer de repousser le moustique.
Et également, l'assainissement du milieu, ça beaucoup néglige, alors que
oui,
c'est aussi important.
Oui. C'est très, très important, mais tout cela en mettant ça en relation avec le comportement du moustique. Il faut que les gens sachent qu'il ne suffit pas seulement de parler de l'assainissement, mais de dire quel est l'assainissement. Je donne un exemple. Prenez la commune de Gombe, prenez le centre-ville.
Le centre-ville, oui.
Vous prenez le campus de Kinshasa. Vous prenez Lingwala. Quand vous voyez l'eau stagnante qui est à Lingwala et que vous voyez l'eau stagnante qui peut se retrouver dans le quartier résidentiel tel que Gombe, tel que Mankampagne, vous allez voir qu'il y a une certaine différence. L'eau de Lingwala, par exemple, est très polluée. Et dans cette eau-là, les moustiques qui se produisent là-bas n'est pas le moustique qui donne la malaria. C'est un autre moustique qui donne la nuisance, et c'est le culex. Tandis que dans les eaux assez propres, moins polluées, c'est là où le moustique anophèle se produit. Et vous pouvez curer le caniveau. Vous pouvez enlever les eaux stagnantes polluées de Lingwala, mais sans diminuer la malaria. Donc, la malaria, il faut savoir chercher là où se produit le moustique anophèle et là ou ils se reposent après le repas.
Donc, docteur, nous rendons compte que c'est vraiment important de sensibiliser la population par rapport à même, surtout au comportement même du moustique. On revient à vous, docteur, le temps pour nous d'avoir d'autres auditeurs qui sont en ligne. Il y a Étienne Katumanga qui est à Kananga, dans les Kasso occidentales, également Mimimido qui est à Bandundouville. Étienne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Étienne.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je veux demander à notre invité. J'ai suivi qu'il a dit que ceux qui sont victimes souvent sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, je ne sais pas s'il peut m'aider. Qu'est-ce qui est à la base? Ou qu'est-ce qui fait que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont souvent victimes de la malaria? Parce qu'il n'a pas parlé des adultes dans son entièreté. Il a distingué les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, qu'est-ce qui fait que ces deux catégories de personnes sont souvent victimes de la malaria? Merci beaucoup.
Merci, Étienne. Mimimido, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur l'invité. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, il y a une dame qui est... Alors, allez-y, Mimi, on est content d'avoir enfin une dame à l'antenne. Allez-y, on vous écoute.
J'ai une question à poser à l'invité.
Allez-y.
Oui, je veux savoir si les traitements préventifs ne se font que sur la ville de Kinshasa ou toute la République.
Merci à Mimimido. Le docteur va vous répondre tout à l'heure. Docteur Angwell.
Merci. Pourquoi
seulement les femmes enceintes et les enfants et de moins de 5 ans?
Monsieur, j'ajoute, il y a les femmes enceintes, il y a les enfants de moins de 5 ans, il y a les personnes vivant avec le VIH et SIDA, il y a les enfants, les personnes mal nourries, et il y a aussi les personnes qui sont en détresse, par exemple, après les catastrophes, les urgences complexes. Pourquoi cela? Parce que tout ce que je viens de citer, ce sont des situations qui entraînent la réduction de la protection chez un individu. Et lorsque la protection est réduite, ça donne l'occasion à la personne de faire facilement la malaria. Les enfants de moins de 5 ans, évidemment, sont en période de croissance et ils augmentent aussi, ils sont aussi en période de faible protection, qu'on dirait congénitale, parce que lorsque l'enfant naît, sa mère lui transmet une certaine capacité de se protéger. Je parle vraiment en termes de se protéger.
Oui.
Et au fil des temps, que l'enfant grandit, il perd cette protection conférée par la mère et il cherche à acquérir maintenant sa propre protection. Cette période le rend vulnérable parce que il perd de plus en plus ce qu'il a reçu de la mère et il gagne de plus en plus. Donc, c'est une période de carence. Et c'est à cause de cela que l'enfant de moins de 5 ans est vulnérable. La femme enceinte, c'est la grossesse elle-même, je dirais, est un corps étranger par rapport à la femme. Et l'organisme humain, même des animaux, réagit face au corps étranger en créant des anticorps. Et normalement, les anticorps créés devaient éjecter la grossesse. Or, ce n'est pas le cas. La réaction se fait, mais pas de façon très importante pour éliminer la grossesse. Mais c'est ce qui fait que la femme perd un peu de son immunité et se retrouve effectivement comme légèrement diminuée en matière de protection et il se retrouve comme un enfant de moins de 5 ans. La même chose pour le sida, je ne voudrais pas plus, vous savez que le sida réduit sensiblement la protection immunitaire chez les personnes atteintes et aussi la malnutrition. Donc tous ces états finissent par réduire la protection de la personne et la laisse susceptible à faire la malaria.
Alors qu'est-ce que vous dites
quant à madame,
oui, qui demande si ça s'est fait quant
seulement à madame, vous avez vraiment raison, ce n'est pas seulement Kinshasa. La politique, elle est nationale, elle doit se faire partout. Et ça pose là la question de la vulgarisation, effectivement, de la politique. Comme a dit quelqu'un qui a posé le problème de communication, nous avons vraiment un gros effort à fournir quant à la communication par rapport aux mesures, à la politique nationale et à la vulgarisation. Et nous demandons effectivement que à toute personne responsable, acteur de lutte contre le paludisme, puisse être l'acteur de vulgarisation de la politique et l'acteur pour sa mise en œuvre.
Alors, docteur, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'accès au traitement au traitement préventif intermittent contre la malaria chez la femme enceinte? Parce que selon des enquêtes démographiques et des santé effectuées en 2006, vous êtes certainement au courant de ces résultats. Il y a seulement tout milieu confondu, il y avait 2 femmes sur 10 qui avaient accès. Si on réduit vraiment en termes simples, qui avaient accès à ce traitement. Actuellement, comment ça se passe? Il y a de nouveaux chiffres? Il y a des avancées?
Oui, les chiffres que vous citez là sont les chiffres de 2007 et en 2010, l'UNICEF aussi avait fait une enquête.
Oui.
Il y a une légère augmentation quand même. Je crois que on est au-delà de 20% maintenant. Et comme vous avez dit que tout cela, c'est tout milieu confondu.
Oui.
Mais que les gens n'oublient pas qu'on ne fait rien sans moyens. Là où nous avons des résultats, c'est là où nous avons mis un peu de moyens que nous avons mobilisés. Et ça fait partie de notre tâche de mobiliser des ressources conséquentes pour pouvoir amener la politique nationale de lutte contre le paludisme dans toutes les 500 zones de santé et à toute la population. Il n'y a que cela qui peut nous amener effectivement à ce que nous arrivions à atteindre nos objectifs de réduire la maladie du paludisme et de faire de manière à ce que les personnes atteintes du paludisme n'en meurent plus. Sinon, on a encore une longue route à faire.
Voilà, merci beaucoup docteur Jean Gualou. Nous rappelons que vous avez été notre invité pour parler de pourquoi est-il important de prévenir la malaria chez une femme enceinte. Donc il est important, vous l'avez dit, pour une femme enceinte d'aller en consultation prénatale. C'est là où ça permet à la femme enceinte d'accéder à ces traitements préventifs contre la malaria. Donc les femmes, j'espère, ont bien retenu. Donc elles ne vont jamais négliger les consultations prénatales et surtout, certainement demander le traitement, parce que est-ce que ces traitements se trouvent partout, mais il appartient également à des femmes, peut-être on peut oublier, de demander est-ce que vous m'avez donné le traitement contre la malaria, ça c'est important aussi.
Oui, moi je pense que c'est très important, c'est d'où l'importance de la sensibilisation. Parce que si la femme sait que, en allant à la consultation prénatale, je dois bénéficier de traitements préventifs intermittents, et si en quittant la consultation, elle n'en a pas bénéficié, elle est en droit de réclamer que voilà où est mon traitement préventif intermittent contre le paludisme. Il faut qu'elle le sache. D'où nous avons tout intérêt à vulgariser la politique, à sensibiliser toute la population avec toutes les mesures de lutte contre le paludisme.
Encore une fois, nous vous disons merci, docteur Jean Gualou. Nous rappelons que vous êtes le directeur national du programme de lutte contre le paludisme. Merci, au revoir.
Merci, monsieur le journaliste.